Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
C'est à nous, bienvenue à tous, RTL, bonsoir, c'est parti, on va passer la fin de journée maintenant ensemble, on s'en réjouit, vos serviteurs en studio, Cyprien Signy, Isabelle Choquet, Claire Delorme, Marc-Antoine Lebray, bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous.
Marc-Antoine, vous nous avez rejoint dans un quart d'heure, on imitera qui dans le Breaking News?
Franck Ribéry, que je voudrais rendre hommage à Pierre Pivot. C'est pas vrai, ce sera pas lui.
C'est pas vrai, ce sera pas lui. Vous le maîtrisez pas encore, Franck Ribéry?
Si, c'est quelque chose que je viens d'ouvrir.
Ah d'accord, très bien. Okay. Je n'écoute pas assez. Je vous donne les rendez-vous de l'émission. Évidemment, dans quelques minutes, nous allons, Marc-Antoine le souligner avec son humour, revenir sur la disparition de Bernard Pivot, l'homme qui faisait lire les Français.
Mon père était prisonnier de guerre, donc parfois j'étais triste. Je voyais que ma mère pleurait. Eh bien, je trouvais que dans le Petit Larousse, des mots de consolation, des mots de plaisir, des mots qui me faisaient rire aussi. Le Petit Larousse a été mon premier copain, mais aussi, je dirais, mon premier tuteur à la fois intellectuel et familial.
À 18h15, un écrivain, son ami, ancien dirigeant de RTL, Philippe Labrosse, sera notre invité dans cette émission.
Et dans la deuxième heure, on accueillera la Bernard Pivot, en quelque sorte, des réseaux sociaux où elle partage son amour des mots. Karine Dijoux, de La Prof, suivie par des centaines de milliers de personnes, sera avec nous.
À suivre également, à 18h40, le gouvernement veut 2 millions de véhicules 100% électriques en 2030. Vraiment, est-ce réaliste? On va s'interroger.
Et après 19h, le débat du jour, la France a-t-elle raison de dérouler le tapis rouge au président chinois? L'ambassadeur de Taïwan nous rejoindra alors que la Chine menace son pays.
Et avant 20h, il y aura aussi de la cuisine, de la musique et, écoutez bien, un chèque de 500€ pour aller manger chez Alain Ducasse dans le grand quiz de RTL Bonsoir. Et ça, c'est pour vous les auditeurs. Avant toute chose, 10 minutes pour tout savoir, le journal.
RTL Bonsoir.
Avec donc à la une.
La mort de Bernard Pivot, bien sûr, à 89 ans, les Français perdent leur prof de français préféré, en quelque sorte. La visite de Xi Jinping en France, l'Ukraine n'est pas si loin, vous allez l'entendre. Et puis le PSG plutôt zen à la veille d'un match crucial contre Dortmund.
Et tendance météo pour demain?
Ce sera un temps encore assez gris et agité, avec des températures légèrement en dessous des normales, comprises entre 17 et 21 degrés l'après-midi.
Le journal, Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Concerto pour piano de Rachmaninov, célébrissime générique d'apostrophe, l'émission culte de Bernard Pivot, l'homme qui faisait aimer les livres et les écrivains, le roi lire comme on l'appelait. Bernard Pivot est mort aujourd'hui, il avait 89 ans.
Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir.
Pour nous tous, Pivot, c'était d'abord apostrophe.
Ben oui, l'aventure démarre un vendredi de janvier 1975. 723 rendez-vous hebdomadaires suivront pendant 15 ans. Dans une France où n'existe que 3 chaînes de télé, l'émission rassemble 2 à 3 millions de téléspectateurs. La bonhomie, la curiosité de son animateur font mouche. Bernard Pivot fait la pluie et le beau temps, des ventes en librairie, et on ne compte plus les moments d'anthologie d'apostrophe, comme lorsque l'Américain Charles Bukowski, ivre mort sur le plateau, est viré par Cavana.
Bukowski, ta gueule, tu nous enquiquines.
Voilà. Oh, Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule.
Doucement, Cavana, doucement.
Ah, c'est pas vrai.
Je vais pas l'emmener.
L'amour de Pivot pour notre langue va l'emmener dans une autre aventure, Bernard.
La dictée, il va en faire un sport national avec les dicodores. Les Français vont se passionner pour ce redoutable concours d'orthographe retransmis sur nos petits écrans. Mais rappelons que la toute première de ces dictées a été radiophonique. Et ici, sur RTL, c'était en 1985.
Hormis un maître queue eczémateux et un sommelier grippé, virgule, serveurs et cuisiniers s'étaient rassemblés pour préparer la garden party du maître du château, virgule.
Sacré destin pour Bernard Pivot. En fait, rien ne le prédestinait au monde des lettres à l'origine.
Eh oui, fils d'épicier de Lyon, des racines beaujolaises, dans le village de Quincier, où il se réfugie pendant la guerre avec sa mère, des débuts modestes dans la presse régionale à Lyon, puis arrivé à Paris au Figaro littéraire, dont, pour l'anecdote, il sera renvoyé, viré par Jean d'Ormesson, sans rancune, puisque l'académicien deviendra l'un des piliers de l'émission apostrophe.
Et son bâton de maréchal, en quelque sorte, Bernard Pivot l'obtient en entrant à l'Académie Goncourt.
En 2004, premier non-écrivain admis chez les Goncourt, il en deviendra même le président en 2014, une fonction qu'il assumera jusqu'à son retrait en 2019. Il était très fier de tout cela.
Arrivé chez les Goncourt, bon, c'était inespéré pour moi, parce qu'encore une fois, journaliste, je ne pouvais pas y accéder, j'ai été très fier. Et puis, je me suis aperçu que je succédais, je ne le savais pas, au couvert qui avait été tenu, entre autres, par Colette et Jean Giono, deux de mes écrivains du XXe siècle préférés. Voilà la fourchette et le couteau sur lesquels sont inscrits les noms de mes prédécesseurs, dont Colette et Giono. Et je peux vous assurer que lorsque la première fois j'ai porté à ma bouche cette fourchette, j'étais très, très ému.
Et puisque tout est parti de l'amour des mots, on va laisser le dernier mot à Bernard Pivot.
Mais l'historien Pierre Nora voyant lui un concentré de français, c'est la clé de son incroyable réussite sans doute, pour celui qui se définissait comme un militant de l'augmentation du goût de la vie. Et voici donc le mot que Bernard Pivot chérissait.
Gourmandise. Parce que j'ai été gourmand d'abord des bonnes choses de la vie, du boire, du manger, mais aussi j'étais gourmand des mots, j'étais gourmand de l'amour, j'étais gourmand de tout ce que je ne connaissais pas, de tout ce que j'ai appris. Je suis gourmand de la vie. Voilà. J'espère que même le dernier jour de ma vie sera un jour gourmand.
Formidable, Bernard Pivot. Gourmand.
Bernard Pivot, dans vos yeux, Bernard Lehu, vous allez nous raconter dans quelques minutes, vous restez évidemment dans les parages, Bernard, votre Bernard Pivot, vous serez tout à l'heure aux côtés de Philippe Labro dans une dizaine de minutes dans RTL Bonsoir. Philippe Labro, ancien patron ici RTL, mais surtout écrivain et ami de Bernard Pivot.
RTL Bonsoir.
L'actualité ce soir, c'est aussi la visite du président chinois en France.
Visite d'État de deux jours. Xi Jinping a été reçu à l'Élysée dès ce matin en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il a notamment été question de la balance commerciale. Emmanuel Macron a réclamé des règles équitables pour tous.
Et puis les dirigeants ont aussi évoqué l'Ukraine. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
L'idée c'était de faire passer un message à la Russie.
Oui, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen comptent sur Xi Jinping pour parler à Vladimir Poutine, à qui il va d'ailleurs dérouler le tapis rouge dans deux semaines à Pékin. Il compte donc sur lui pour redire à Vladimir Poutine les positions de la France et de l'Europe, à savoir que l'Europe n'a pas provoqué ce conflit et qu'elle est déterminée à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Paris veut aussi que Pékin s'engage à ne pas soutenir l'effort de guerre russe, à ne pas exporter des matériels militaires ou tout autre bien qui pourrait être détourné et utilisé à des fins militaires. Là-dessus, les pays du G7 ont déjà fixé une ligne rouge à la Chine ces derniers mois, ne pas livrer directement des armes à la Russie. Mais jusqu'à présent, Pékin n'a pas fourni de preuves sur ses exportations ou non vers Moscou. Voilà pour les messages passés selon une source diplomatique. Reste à savoir maintenant comment cela sera reçu par Xi Jinping, si cela aura des effets et s'il parlera véritablement à Vladimir Poutine.
Émilie Beaujard à l'Élysée pour RTL. L'indignation et l'inquiétude après l'ordre d'Israël d'évacuer Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Selon le Croissant Rouge palestinien, des milliers de personnes ont déjà quitté l'est de la ville après des frappes de Tsahal. L'ONU dénonce un ordre inhumain.
On en vient maintenant à ce moment très très fort au procès en appel de l'attentat de Nice. Pour la première fois, des enfants ont témoigné.
L'attaque le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et des dizaines de blessés. 3000 enfants étaient présents ce soir-là quand un camion lancé à pleine vitesse a dévalé la promenade des Anglais. Sophie Neumayer, vous êtes au palais de justice de Paris pour RTL. La cour a entendu cet après-midi Landy et Télian, ils étaient tout petits à l'époque.
Oui, ils avaient 4 et 5 ans et demi. Télian et Landy en ont 8 de plus aujourd'hui. C'est rare que d'aussi jeunes visages s'affichent dans une salle d'audience. Ils ont témoigné par visioconférence. Puis la voix cristalline de l'aîné a brisé le silence. Après le feu d'artifice, nous marchions. Et puis boum, plus rien. Landy lit un texte écrit pour l'occasion. Sans que sa voix ne tremble, elle évoque le passage du camion. Après, le film d'horreur a commencé. Elle détaille la disparition du petit dernier, le bébé retrouvé plus tard vivant. Et puis les blessures des membres de sa famille. Elle a le crâne et les jambes enfoncées. Les mots sont soigneusement choisis, aidés sans doute par ses parents et par leur avocate qui assure que ses enfants ont insisté pour témoigner. Landy poursuit, c'est important. Pour moi, pour tirer un trait sur tout cela. Puis son petit frère prend le relais, lui aussi lit un texte. J'ai eu le visage défiguré, explique-t-il, avant de raconter l'angoisse, la peur longtemps ressentie, cette crainte de la séparation depuis. Cela fait du bien d'être entendu, dit-il. Avant de conclure, dans ce malheur, je dirais que l'union fait la force et que le meilleur reste à venir. Frissons dans une salle admirative de leur courage.
Sophie Neumayer au Palais de Justice de Paris pour RTL. Le tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet a été tagué cet après-midi au Centre Pompidou de Metz, tagué par de jeunes militantes MeToo. Elles ont jeté de la peinture. Heureusement, l'œuvre était protégée par une vitre.
Allez, on en vient au foot maintenant à 18h09 dans RTL. Bonsoir. Veillée d'armes pour le PSG avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund.
Les Parisiens sont à 90 minutes de cette finale de Ligue des Champions dont ils rêvent depuis 4 ans. 90 minutes minimum. Paris s'est s'incliner 1-0 à l'aller en Allemagne. Tout reste à faire donc demain au Parc des Princes. Philippe Sansfourche, malgré tout, vous les sentez pleinement sereins, les Parisiens?
Oui, en fait, on ne change pas cette recette qui a si bien fonctionné face à Barcelone quand il s'agissait déjà de remonter un but de retard au match retour. Détermination et décontraction. D'ailleurs, l'entraîneur Luis Enrique n'est jamais plus détendu qu'à la veille de ses grands matchs. Il s'est même essayé à quelques mots de français.
On va gagner, bien sûr.
On va gagner, c'est une réelle conviction après une très bonne semaine de préparation, de l'aveu même du coach espagnol. Une semaine sans match de championnat qui a permis de consacrer une journée pleine à la défense pour compenser notamment la blessure de Lucas Hernandez. Puis une autre journée axée sur l'attaque. Tout a été pensé, décortiqué en concertation avec le capitaine Marquinhos.
Nous, on a notre stratégie qui sera en place. On ne va pas le dire ici devant les caméras. Nous, on a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé. Des petits détails qu'il faut améliorer. Et je pense que demain, tout le monde est prêt et conscient de tout ce qu'on doit faire sur le terrain pour faire un grand match à gagner.
Marquinhos persuadé également que les supporters joueront un rôle majeur pour enflammer le Parc des Princes pendant 90 voire 120 minutes en cas de prolongation.
Philippe Sansfourche du service des sports d'RTL. Le foot ce soir, c'est aussi Lille-Lyon, match décalé de la 32e journée de Ligue 1. Les Lillois sont quatrièmes, ils visent une place sur le podium, synonyme de Ligue des Champions. Lyon espère aussi une place européenne. Coup d'envoi de ce match à 21h.
Et ce sera à vivre en fil rouge, bien entendu, ce soir sur RTL. La suite du journal, c'est...
Ces Français qui ne partent pas en vacances, trop cher.
Et puis à court terme, là, les moments à ne pas rater dans RTL Bonsoir, dans 5 minutes, il y aura, on évoquait le PSG, Kylian Mbappé dans la voix de Marc-Antoine Lebray, en français ou en espagnol.
On ne sait pas.
Suspense, on verra. Et puis dans quelques minutes également, RTL au cœur de l'événement, comme chaque soir, nous allons rendre hommage encore une fois à Bernard Pivot avec son ami, l'écrivain Philippe Labrovo. Restez avec nous.
RTL Bonsoir.
RTL Bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Et tiens, on se pose cette question dans RTL Bonsoir à 18h13 dans le journal. Et vous, où serez-vous cet été? Eh bien, pas forcément à la plage, apparemment, parce que les Français vont moins partir cette année.
Oui, c'est ce que révèle un sondage OpinionWay pour le comparateur de voyage Liligo. Environ 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances. C'est 3 points de plus que l'an dernier. Et c'est aussi la première fois en 4 ans que ce chiffre augmente. Alors, c'est avant tout, il faut le dire, une question de prix. Vous l'avez constaté, Patrick Hisson, dans les rues de Toulouse.
Pour ce jeune couple de Toulousains, c'est décidé, il n'y aura pas de vacances cet été.
À deux, avec la location, au moins 1000 balles. Si tu veux te faire un ou deux restos, ouais.
Ça, vous pouvez vous le permettre aujourd'hui?
Pas vraiment.
Avec leurs 4 enfants, Eric et Pascaline ont dû, eux aussi, renoncer au séjour qu'ils avaient l'habitude de s'offrir chaque été.
On fait tout pour essayer de faire un peu d'économie, mais malgré tout ça, ben, il faut toujours bien réfléchir à ses dépenses.
Ça vous fera aller de ne pas partir cet été?
À la gueule, nous, c'est pas grave, mais les enfants, oui.
L'inflation a eu raison également des vacances estivales du fils de Jacqueline.
Ils restent à la maison et en fait, ils vont emmener leurs enfants dans des attractions et autres, mais ils limitent les dépenses. Tous les deux, avec ma belle-fille, gagnent bien leur vie. Ils sont pas loin des 4 000 euros par mois. Mais non, les vacances, ça coûte trop cher aujourd'hui. Ça va être la première fois vraiment qu'ils ne partent pas en vacances.
Quant à Elisa, elle a fait ses comptes et le budget ne passera pas cet été où elle a choisi de travailler.
Que ce soit les vols d'avion qui sont devenus chers, la SNCF qui a aussi augmenté ses prix, même les hôtels ou même les auberges de jeunesse qui ont aussi également augmenté leurs prix.
Cette jeune Toulousaine a tout de même décidé de partir plus tard quand les prix seront plus raisonnables.
Voilà le reportage RTL de Patrick Hisson à Toulouse.
Bon, c'est peut-être une semaine de vacances, ou en tout cas de grands ponts pour certains d'entre vous à l'écoute. Il va faire beau, il va pas faire beau demain pour la journée rouge de bison futé, cher Claire?
Alors, ce sera la dernière journée, il faudra un petit peu patienter avec de nombreux nuages et de la pluie, des averses. Mais à partir de mercredi, ça va commencer à s'arranger, ça va même s'installer tout au long de la semaine. En attendant, donc l'ambiance, oui, elle sera assez maussade pour demain, avec des nuages encore très nombreux en matinée, que ce soit sur la majeure partie du pays. Donc, les pluies seront encore présentes toute la journée sur le flanc est, surtout du Jura aux Alpes, avec une limite pluie-neige assez élevée, 1800 mètres d'altitude. Des averses également assez nombreuses au sud de la Loire en matinée et dans l'après-midi. Même si elles auront tendance à se raréfier, eh bien elles resteront quand même assez vigoureuses près de la Garonne et des Pyrénées, prenant une tournure orageuse. Ça sera également assez nuageux dans le nord du pays, mais petit à petit dans l'après-midi, on assistera à une belle amélioration avec quand même quelques éclaircies. La Méditerranée bénéficiera quant à elle d'un ciel dégagé toute la journée. Quant aux températures, elles accusent quand même une légère baisse par rapport au jour précédent. On est légèrement en dessous des normales, ça se traduit de 6 à 10 degrés en général dans la matinée. Dans l'après-midi, 17 à 21 degrés et ponctuellement, ça peut grimper jusqu'à 22, voire 23 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup Claire. Place à la voix maintenant, plutôt les voix. Marc-Antoine Lebray.